Le Cantique des Cantiques, chapitre 6, versets 8 à 10. Il y a 60 reines et 80 concubines et des vierges sans nombre. Ma colombe, ma parfaite, est unique. Elle est l'unique de sa mère, l'unique de celle qui l'a enfantée. Les jeunes filles l'ont vue et l'ont dite bienheureuse. Les reines et les concubines l'ont louée. Qui est celle qui apparaît comme l'aube du jour, belle comme la lune, pure comme le soleil, redoutable comme les armées qui marchent, enseignes déployées. Bonjour à tous, frères et sœurs. En ce sabbat, quelle est votre espérance? Et à tous les auditeurs, on ne sait jamais ce que le Seigneur a en réserve. Et donc, je voudrais vous poser la question, quelle est notre espérance aujourd'hui? Est-ce que notre espérance est vivante? Ou est-ce que notre espérance est étouffée? Est-ce que notre espérance est amoindrie par la puissance de l'ennemi qui œuvre avec tant de zèle et d'effort en ces derniers moments du temps de grâce? Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui m'est très à cœur. Et donc, ça sera une interlude dans toute la suite d'études qu'on a eues sur le vêtement de la justice de Christ. Aujourd'hui, ça sera une interlude. Parce que il y a une réalité que de plus en plus je ressens et qui revient à ma mémoire et qui est que le Seigneur ramène à mon attention, qu'on a vraiment besoin de contempler aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on prenne ce temps pour étudier le sujet de l'Église. Et pas simplement étudier le sujet de l'Église, mais étudier la réalité de ce qu'est l'Église en ces derniers jours. Pas simplement de ce qu'est l'Église tout au long de la période du temps de grâce depuis la chute d'Adam et Ève jusqu'à la fin et au retour de Jésus. Mais qu'est-ce qu'est l'Église aujourd'hui? Quelles sont les réalités qui nous permettent de discerner l'Église par nos propres yeux, de notre entendement aujourd'hui? Et de ne pas être dans le flou, de ne pas être dans l'incertitude, mais de pouvoir, avec une certitude parfaite et ferme, discerner et savoir de nos propres yeux où se trouve l'Église du Seigneur. L'Église de Jésus, la continuité de cette Église. C'est ce qu'on va faire, Dieu voulant et par la grâce de Dieu, aujourd'hui. Et frères et sœurs, Jésus a prédit que le temps de la fin serait un temps particulièrement douloureux pour son peuple. Allons-y ensemble dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. Vous savez, j'ai des souvenirs vifs de l'expérience que j'ai souvent faite dans les milieux adventistes, c'est que en ne touchant pas, en n'abordant pas le sérieux de la situation des derniers jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui, nous sommes incapables de recevoir la consolation que Dieu veut nous donner vis-à-vis de cette terrible condition de choses dans laquelle nous sommes plongés en tant qu'enfants de Dieu si véritablement nous souhaitons servir Dieu, l'aimer, le recevoir, lui répondre à ses appels d'amour. Donc, pour vraiment recevoir la consolation profonde, forte, puissante que Dieu a pour nous en réserve, qu'il soit déversé sur son peuple, c'est impossible. C'est impossible pour nous de la recevoir, cette puissante consolation, si on n'a pas d'abord un sentiment vif de la terrible condition de choses dans laquelle le monde est aujourd'hui plongé et dans laquelle nous sommes aujourd'hui plongés avec le monde. Parce que, comme Jésus a dit dans sa prière d'intercession au Père dans Jean chapitre 17, il a dit « Je ne te prie pas que tu les sortes du monde, mais je te prie que tu les gardes ce que j'ai envoyé dans le monde. » Parce qu'il nous envoie. Si je reçois le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Désolé, tu restes dedans. Tu restes dedans. Et tu souffres ce que le monde souffre. » Dans Matthieu, chapitre 24, versets 4 et 5. Et ensuite, versets 11 à 13. Et donc, les disciples étaient venus à Jésus, ils avaient demandé à Jésus, ils lui avaient parlé de la beauté de ce temple, ils lui avaient montré, Seigneur, regarde comment il est beau ce temple, pouah, ce temple, il va jamais s'effondrer, c'est l'église du Dieu vivant, regarde Jésus. Verset 2. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et les disciples, ils écoutaient Jésus, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, 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 ça va rester tout le temps, ce temple, il est magnifique. C'est la joie, l'orgueil de nous, du peuple de Dieu. Et Jésus a dit, désolé, ce temple, il va être complètement démoli. Et ensuite, ils se sont dit, les disciples se sont dit, oh, ah d'accord, ah je sais. Il parle de la toute fin, bientôt, trop loin là, dans le futur lointain. À ce moment-là, le temple, il va être démoli. J'ai compris ce qu'il veut dire, Jésus, j'ai tout compris. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous avez ici une manifestation des illusions du cœur humain. Frères et sœurs, prenons cela à cœur parce que on a absolument besoin de discerner que la disposition qu'avaient ses disciples, ces hommes, de retirer un sens des paroles de Jésus qui n'était pas celui qu'il avait voulu communiquer, est exactement la disposition qui est la nôtre. C'est pour cela que lorsque l'on lit et qu'on écoute la parole de Dieu, on a un besoin tellement fort de prier le Seigneur, d'avoir un cœur ouvert pour pouvoir discerner ce que lui veut dire et pas ce que nous voulons en retirer comme sens et comme message. Et donc, ils se sont dit, il parle de son avènement, de son retour, quand tout sera détruit. Et Jésus, parce qu'il est miséricordieux et parce qu'il compatit avec nos terribles infirmités, comme à leurs infirmités, il a laissez passer. Et il est passé à autre chose, il a donc déclaré toutes les choses qui précéderaient son avènement, le retour de Jésus-Christ. Et parmi toutes ces choses, nous allons maintenant souligner certaines qui ont à voir avec l'Église de Dieu à la fin des temps. Verset 4. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, Je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité, l'amour de plusieurs se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il vient ici de tracer le début de ce dessin que nous voulons explorer, de ce dessin prophétique de l'Église du reste. Il a tracé le dessin de leur temps jusqu'à la fin, parce que nous venons de lire que au verset 13, il dit « Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » Voyez ce tracé de Jésus par l'esprit de prophétie qui nous amène jusqu'à la fin. Et c'est un tracé qui est adressé à l'Église. Et si vous regardez maintenant attentivement, vous voyez que contenu dans ces paroles, du verset 11 au verset 13, se trouve une partie du dessein prophétique de l'Église du reste. C'est le sujet de notre étude aujourd'hui. Le dessein prophétique de l'Église du reste. Et quel est ici cet élément de ce dessein qui nous est ici présenté par Jésus? C'est que beaucoup se refroidiraient à cause de l'atmosphère étouffante de l'iniquité multipliée qui envelopperait le monde. C'est ce qui est écrit, non? Au verset 12. Parce que l'iniquité sera multipliée, la charité ou l'amour de plusieurs se refroidira. Donc la charité de beaucoup, beaucoup de personnes verront leur amour, leur ferveur, leur zèle pour la religion de Jésus-Christ se refroidir. Donc vous avez ici l'iniquité qui se multiplie, l'amour de plusieurs qui se refroidit, mais seule une petite partie de fidèles persévérerait. Comme c'est écrit ici. En fait, c'est un message implicite, mais que nous allons pouvoir confirmer et développer dans d'autres textes, d'autres passages. Il est écrit, « Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » Qu'est-ce qui est écrit à un autre endroit? Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc, il y en a beaucoup que le Seigneur appelle, mais peu qui sont élus, peu qui sont finalement sauvés, peu qui persévèrent jusqu'à la fin. Donc là, nous venons de commencer notre exploration du dessein prophétique de Jésus-Christ, de l'Église, du reste. Et on veut le continuer maintenant, en allant dans Amos. Le livre d'Amos, au chapitre 5. Amos, chapitre 5, versets 1 à 3. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Donc ici, le prophète, il parle et il déclare une complainte sur la maison d'Israël, c'est-à-dire sur l'Église de Dieu. Parce que, au temps d'Israël, la maison d'Israël n'était autre que le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu n'était autre que l'Église de Dieu. Et donc, ici, nous avons ici des informations que le prophète nous donne. Il dit, « Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est étendue sur sa terre et personne ne la relève. Car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes en aura 100 de reste. Et celle qui mettait en campagne 100 hommes en aura 10 de reste dans la maison d'Israël. Est-ce que vous discernez ici le récit prophétique d'une chute? Et c'est souvent le cas que dans la parole de Dieu, les prophètes déclaraient une condition de choses qui était reflétée dans l'Église de leur temps et qui sera aussi applicable à l'Église de la fin des temps. Et vous pouvez le vérifier directement en considérant les paroles que l'on vient de lire dans Matthieu chapitre 24 et d'autres passages que nous avons encore à explorer. Mais avant de poursuivre, relevez avec moi ces points capitaux. Qu'est-ce qui est écrit ? La ville de Dieu, qui n'est autre qu'une représentation de l'Église. Comme c'est écrit juste avant au verset 1, la maison d'Israël. La maison d'Israël, la ville de Dieu, ou encore au verset 2, la Vierge d'Israël. Toutes ces choses sont des termes bibliques pour nommer une entité réelle qui constitue un ensemble de personnes qui servent Dieu. La maison d'Israël, elle contenait tous ceux qui appartenaient à Israël, comme une famille. La Vierge d'Israël, une femme dans la parole de Dieu, c'est une représentation, un symbole d'une église. Une femme pure, c'est une représentation, un symbole d'une église pure, pure dans ses doctrines, pure dans ses pratiques, pure dans la vie de ses fidèles. Et une femme impure représente une femme impure, une prostituée représente une église impure, une église qui s'amalgame avec le monde. Et ici, nous voyons la Vierge d'Israël, nous dit-on, est tombée, elle est étendue sur sa terre et personne ne la relève. C'est une image, et cette image est donnée pour représenter une condition de choses morales. Et là, il dit quelque chose de très très important. Pas simplement intéressant, mais important. Important parce que dans la condition de choses dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, telle que Jésus l'a prophétisé, où l'iniquité serait multipliée et est multipliée, et que l'amour de plusieurs se refroidirait, nous avons besoin de l'illumination de la parole prophétique de Dieu pour nous aider à ressortir de cette tiédeur, de ce refroidissement du zèle et de l'amour qui caractérise directement la condition de choses du monde religieux dans ces derniers jours. Et c'est ce passage, parmi les autres que nous examinons, qui nous aide exactement à faire cela. Qu'est-ce qui est écrit ? La ville qui mettait en campagne 1000 hommes. Vous avez ici une ville, c'est une image d'une ville qui a les effectifs suffisants pour envoyer à la guerre 1000 hommes. Ça veut dire qu'il y a une population importante dans cette ville de telle sorte qu'il y a au moins 1000 hommes qui peuvent prendre les armes. C'est une image, mais cette image, elle communique une réalité. Relevez avec moi ces réalités, frères et sœurs, pour ce que ça veut dire en vrai, pour relever ce que cela veut dire en vrai. Elle mettait en campagne 1000 hommes, donc elle avait une grosse capacité, de gros effectifs. C'était une église avec beaucoup de fidèles, beaucoup de personnes vivantes dedans. Et celle qui mettait en campagne 1000 hommes en aura 100 de reste. Le prophète est en train de prophétiser ici. Il ne parle pas d'une condition de choses présentes de son temps, propre à son temps. Il parle d'une chose qui va se développer. Celle qui mettait en campagne 1000 hommes en aura 100 de reste. Et qu'est-ce qui suit après? Et celle qui mettait en campagne 100 hommes en aura 10 de reste dans la maison d'Israël. Est-ce que vous réalisez ce que le Seigneur est en train de dire ici? Quel est le pourcentage? 10 sur 1000, est-ce 1%? Vous voyez le sérieux de cette condition qui est déclarée ici. La Vierge d'Israël est tombée. Elle est tombée et alors qu'il y avait 1000 hommes, il n'y en a même plus que 10 désormais. Continuons ce dessin prophétique de l'Église du reste. Dans Ésaïe, chapitre 1, verset 21. Voyez, frères et sœurs, ce dessin prophétique est absolument primordial. C'est capital pour nous de comprendre ce que le Seigneur nous a réservé dans sa parole pour consolation. Pour consolation. Parce que si vous vous retrouvez dans une condition de choses où le monde est plongé dans l'iniquité, parce que cette iniquité s'est multipliée au fil des années, eh bien, à moins de discerner que ces choses sont telles que Dieu les avait prédites et de discerner que dans cette condition de choses, Dieu a pourvu pour faire face à cette décadence morale terrible qui est si dangereuse pour la spiritualité des membres de l'Église de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que cette consolation est d'une importance capitale pour nous, pour pouvoir faire face à ces choses-là. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 21. Le prophète s'exclame, comment la cité fidèle est-elle devenue une prostituée? Elle était pleine de droiture. La justice habitait en elle, et maintenant, des meurtriers. Voilà encore une fois cette description de la Vierge d'Israël qui est tombée. Rappelez-vous, le prophète parle d'un temps futur. Il parle d'un temps futur où, là où il y en avait 1000, il n'y en a plus que 10. À la toute fin, symboliquement parlant, il n'y aurait plus que 10 restants dans la maison d'Israël. Et ici, il parle d'une cité qui était fidèle, mais qui est maintenant devenue une prostituée. Elle était pleine de droiture. C'est-à-dire qu'on enseignait la justice, les hommes représentait et manifestait la justice en elle, par leur vie. La justice habitait en elle, mais maintenant, des meurtriers. Elle n'est plus du tout la même. Cette cité n'est plus du tout la même. Et vous pouvez comprendre maintenant pourquoi Jésus disait, il ne restera pas une seule pierre sur une autre. Elle sera complètement démolie, parce que elle était fidèle, mais maintenant il n'y a que des meurtriers en elle. La justice n'est plus en elle. Et d'ailleurs, réalisez avec moi, Qu'est-ce qu'il en est devenu de l'Église au temps de Jésus? Vous pouviez compter les disciples de Jésus sur les doigts de la main et des pieds. Il avait 12 disciples, dont un traître. Vous voyez, c'est cela le développement. Et ça s'est manifesté au temps de Christ, lorsqu'il est venu à son premier avènement, et comme nous allons le voir, parce que ça continue, vous allez voir, cela se manifestera et cela se manifeste à cette fin, comme nous l'avons vu juste avant, en faisant le tracé de tous les différents passages qui sont liés les uns aux autres. Vous voyez, frères et sœurs, l'Esprit qui veut que tout soit écrit dans un seul passage, c'est l'Esprit que Dieu ne peut pas satisfaire. Parce qu'il a prévu de communiquer à son peuple avec une langue qui bégaye, avec une langue bégayante. Et c'est comme ça qu'il parle dans sa parole, un peu ici et un peu là. Et maintenant, on vient de voir, la cité fidèle est devenue une prostituée. Et qu'est-ce que cela vous rappelle, cela? Qu'est-ce que cela vous rappelle comme titre directement lié à cela? Est-ce que la parole de Dieu nous parle d'une église qui serait une prostituée? Allez-y avec moi dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, verset 1, verset 2 et verset 5. Et l'un des sept anges qui avait les sept coupes vint et me parla, nous dit Jean, en disant, « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. » Verset 5. Et sur son front, était écrit un nom. Mystère. Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Et vous savez pertinemment de qui il s'agit lorsque vous lisez le verset 6. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Il ne s'agit d'aucune autre que de la papauté, de l'Église catholique romaine. Et ici, nous lisons qu'elle est la grande prostituée. Et nous lisons aussi que elle est la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. En d'autres termes, elle est la mère des prostituées. Vous avez ici un langage très très symbolique ici, qui fait directement allusion à une église qui, depuis sa naissance même, a toujours été mêlée et directement unis au gouvernement de la terre, comme c'est écrit ici, aux nations de la terre. Et directement en lien avec cela, vous allez voir que, à l'été 1844, le message solennel du deuxième ange a été proclamé pour la première fois. Et qu'est-ce que disait ce message ? Il y avait ici, directement relié avec cette Babylone la Grande, un message que les adventistes se sont mis à proclamer. Lisons-le encore une fois pour rafraîchir notre mémoire. Apocalypse chapitre 14, verset 8. Et un autre ange le suivit le premier ange, en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et pour élargir cela, j'aimerais lire un passage de l'Esprit de prophétie directement en lien avec ce texte. Donc, à partir de 1833, William Miller et ses collègues qu'il avait rejoints dans la prédication du premier ange traversaient les États-Unis pour proclamer ce message du premier ange qui n'est autre que « Craignez Dieu et lui donnez gloire car l'heure de son jugement est venue ». Et ils annonçaient que en 1844, Jésus reviendrait sur cette terre pour purifier la terre. Parce qu'ils croyaient que la terre c'était le sanctuaire et que les paroles de Daniel chapitre 8 verset 14 trouveraient leur accomplissement à cette date du 22 octobre 1844. Comme il l'avait calculé dès l'été 1844. Mais la réalité, c'est que, comme c'est écrit ici, malheureusement, les églises en général n'acceptèrent pas ce message d'avertissement. Leurs pasteurs, qui, en leur qualité de sentinelle de la maison d'Israël, auraient dû être les premiers à discerner les signes du retour de Jésus, n'avaient aperçu la vérité ni dans le témoignage des prophètes, ni dans les signes des temps. Des espérances et des ambitions mondaines remplissant leur cœur, leur amour pour Dieu et leur foi en sa parole se refroidirent. Et quand la doctrine du retour de Christ leur fut présentée, elle ne rencontra que préjugés et incrédulité. On avançait contre ce message le fait qu'il était prêché presque exclusivement par des laïcs. Comme les Juifs autrefois, on répondait aux témoignages clairs et précis de la parole de Dieu par la question « Y a-t-il quelqu'un des chefs et des pharisiens qui ait cru en lui ?» D'autres, voyant combien il était difficile de réfuter les arguments tirés des périodes prophétiques, déconseillaient l'étude des prophéties sous prétexte que les livres prophétiques étaient scellés et qu'ils ne pouvaient être compris. Des foules qui avaient en leur pasteur une confiance aveugle refusèrent de prendre garde à l'avertissement. D'autres, bien que convaincus de la vérité, n'osaient pas la confesser de peur d'être chassés de la synagogue. Le message envoyé par Dieu pour éprouver et purifier l'Église révéla combien était grand le nombre de ceux qui avaient placé leurs affections sur le monde et non sur Christ. Les liens qui les retenaient à la terre étaient plus puissants que ceux qui les attiraient vers le ciel. Ils préférèrent écouter la voix de la sagesse humaine et se détournèrent du message scrutateur de la vérité. Je viens de lire ici une description de ce passage, de la réalité de ce passage d'Apocalypse chapitre 14 verset 8. C'est suite à cette réaction des églises que les adventistes, les premiers adventistes, se sont mis à déclarer à annoncer ce message du deuxième ange, que Babylone était tombée. Et quand il disait Babylone était tombée, prenez bien conscience qu'il ne parlait pas de l'Église de Rome. La réalité qu'ils avaient réalisée de leurs propres yeux, c'est que Babylone est tombée et tombée. C'est que dans cette chute morale des églises qui les environnaient, ils avaient discerné une répétition de la chute déjà en existence de l'Église romaine depuis de nombreux siècles. C'est ce que nous pouvons lire dans l'Esprit de prophétie, dans ce même chapitre. D'ailleurs, je n'ai pas donné la page, c'est dans la tragédie des siècles, à la page 410, paragraphe 2. C'était ce que j'étais en train de lire. Et si vous regardez dans le même livre, dans ce même chapitre, je crois que c'est le chapitre 21, eh bien, l'Esprit de prophétie nous donne une explication claire que l'Église de Rome ayant été déchue depuis plusieurs siècles, cet avertissement du deuxième ange ne peut faire référence à l'Église catholique, mais elle désignait directement la réalité du rejet par les églises du message du premier ange. C'est à cela directement que ce message du second ange s'est directement appliqué dès le début de sa proclamation. Et nous venons de lire les réalités concrètes de comment ce rejet par les églises du message du premier ange s'est manifesté. Qu'est-ce que c'était ? Je relève ces choses, frères et sœurs, parce que c'est directement lié avec le dessein prophétique de l'Église du reste. Parce que pour discerner l'Église en ces derniers jours, qui n'est autre que le reste, il faut comprendre les tenants et aboutissants de la répétition de la chute de Babylone. Et comprendre et se rappeler que cette chute de Babylone qui est déclarée dans le deuxième ange, ce n'est pas la chute de la grande prostituée que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 17, mais c'est la répétition de cette chute dans les églises qui suivent les traces de la grande prostituée. Parce que nous avons lu dans Apocalypse 17, 5 qu'elle est la mère des fornicateurs. Ou en d'autres termes, elle est la mère des fornicatrices, elle est la mère des prostituées. Et quand nous disons « elle est tombée Babylone, la grande ville », cela voulait dire en termes concrets les églises protestantes qui se disent protester contre l'Église de Rome et ses abus et ses doctrines et ses traditions sont tombées avec elle dans le même puits, dans la même fosse, elles sont avec Babylone tombées. Elles sont tombées là où Babylone s'est vautrée, dans le vice, dans la corruption, dans l'incrédulité, dans les traditions humaines, dans la sagesse humaine, dans toutes ces choses qui sont contraires à l'Évangile et à la parole de Dieu. Et qu'avons-nous lu de plus qui est très très significatif ici ? Des espérances et des ambitions mondaines remplissaient leur cœur. Des espérances et des ambitions mondaines remplissant leur cœur, leur amour pour Dieu et leur foi en sa parole se refroidirent. Et quand la doctrine du retour de Christ leur fut présentée, elle ne rencontra que préjugés et incrédulité. Cette déclaration est très très importante parce que Jésus a dit que dans la fin, l'iniquité serait multipliée et que l'amour de plusieurs se refroidirait, mais que celui qui persévérerait jusqu'à la fin serait sauvé. Cela implique, la déclaration implicite dans ces paroles de Jésus, c'est que cette condition des choses de l'iniquité multipliée, elle va toucher jusqu'à la fin et jusqu'au retour de Jésus. Et d'ailleurs, c'est cette iniquité multipliée qui provoque le cri et le besoin qui a suscité cette étude aujourd'hui. Parce que la multiplication et le développement de l'iniquité créent dans les cœurs du peuple de Dieu une réalisation croissante du message du deuxième ange, comme nous allons le lire bientôt. Mais avant, j'aimerais continuer cette déclaration de l'esprit de prophétie. Et gardons ces choses en tête, parce qu'il y a écrit ici, on avançait contre ce message le fait qu'il était prêché presque exclusivement par des laïcs. Et imaginez, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, ce message est réitéré et que vous entendez ce message non de la bouche d'un pasteur, non de la bouche d'un ouvrier biblique agréé, mais de la bouche d'un laïc. Allez-vous présenter contre ce message ce même argument? Vous voyez comme c'est important d'être très attentif et d'être prêt à recevoir la vérité sous quelque vêtement qu'elle puisse venir à nous. Parce que, comme nous allons le voir, à la fin, Dieu emploie et son peuple est un peuple qui est pauvre et affligé. Et si quelqu'un vient à vous qui est pauvre et qui est affligé dans la pauvreté, mais qu'il a la vérité venant du ciel, qu'allez-vous faire? Qu'allons-nous faire, frères et sœurs? Si cette personne vient à vous et qu'elle est un laïc, qu'elle n'est ni un pasteur, ni un ouvrier biblique, ni un colporteur, ni rien du tout, allez-vous rejeter le message du ciel? Et d'autres, bien sûr, il y a d'autres, voyant que ces arguments ils ne se tenaient pas et qu'il était difficile de réfuter les arguments tirés des périodes prophétiques, voyant tout cela, ils déconseillèrent l'étude des prophéties sous prétexte que les livres prophétiques étaient scellés et qu'ils ne pouvaient être compris. C'est une autre des échappatoires au message des trois anges en ces derniers jours. Mais notez bien que rejeter le message des troisième anges, vous pouvez continuer d'être adventiste de nom et d'aller tous les sabbats dans l'église adventiste de votre localité. C'est important de discerner cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous explorons le dessein prophétique de l'église du reste. Nous n'explorons pas le dessein prophétique d'une organisation. Rappelez-vous, la cité était fidèle, elle est devenue une prostituée. C'est ce qui est écrit. Je n'ai fait que lire. Je lis la parole de Dieu, frères et sœurs, et c'est libre à nous d'accepter ou de rejeter les mouvements de l'Esprit de Dieu. Et d'autres encore, parce qu'il y a un autre élément ici. Plusieurs éléments. Des foules qui avaient en leur pasteur une confiance aveugle refusèrent de prendre garde à l'avertissement. C'est une autre réponse. L'avertissement vient à nous, mais notre pasteur, il enseigne quelque chose qui est complètement contraire. Et vu que nous avons une confiance aveugle en notre pasteur, que nous n'étudions pas vraiment notre Bible, que nous n'avons pas vraiment une relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Ma réponse, c'est que c'est pas grave. Le laïc, là, il sait pas. Mon pasteur, il sait tout. Mon pasteur, il a la vérité. Si mon pasteur, il ne le dit pas, c'est que c'est pas la vérité. Ayant une confiance aveugle en leur pasteur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces hommes et femmes de ces églises protestantes qui professaient croire et aimer le Seigneur Jésus, ils refusèrent de prendre garde à l'avertissement. Refusèrent. En anglais, c'est ils refusèrent d'écouter l'avertissement. Même pas de l'écouter. Ils entendent, pouf, ils tournent. C'est une autre réponse. C'était une des réponses qui a été donnée à cet avertissement du deuxième ange en 1844. Mais ces choses se répètent, nous allons le voir. Mais j'aimerais encore relever, parce qu'il y a plein d'éléments ici. C'est absolument primordial que nous les relevions. La déclaration continue. D'autres, bien que convaincus de la vérité... Ah, vous avez ici une autre partie de personnes. Il y avait ceux qui n'étaient pas convaincus, ceux qui voyaient que c'était pas, tout l'argument était irréfutable, mais qui se sont blottis, se sont réfugiés dans le prétexte que on ne pouvait pas comprendre ces prophéties. D'autres qui n'ont même pas avancé aucun argument. Leur pasteur, ils ont une confiance aveugle en leur pasteur. Le pasteur, il ne cogite pas, il ne prend pas garde à ces choses, donc ils ne prennent pas garde à l'avertissement. Mais d'autres, bien que convaincus de la vérité, ils étaient convaincus, ils se disaient, ah, ça, c'est la vérité, ça me dit quelque chose, oh, j'entends la voix du berger. D'autres, bien que convaincus de la vérité, n'osaient pas la confesser de peur d'être chassés de la synagogue. C'est une autre réponse, ça. Est-ce que j'ai peur que, en confessant la vérité qui est si contraire à tout ce que je vois être pratiqué dans l'église dans laquelle je vais, est-ce que j'ai peur que si je professe cette vérité-là, je vais être chassé de la synagogue, chassé de l'église? Oui, mais la réalité, c'est que le message envoyé par Dieu pour éprouver et purifier l'Église, qu'est-ce qu'il révéla, ce message que Dieu avait envoyé dans son amour? Il révéla combien était grand le nombre de ceux qui avaient placé leurs affections sur le monde et non sur Christ. Les liens qui les retenaient à la terre étaient plus puissants que ceux qui les attiraient vers le ciel. Vous savez, ces choses, ça me fait vraiment trembler et réfléchir très profondément à l'intérieur de moi-même, parce que la prophétesse, elle parle ici d'un temps qui est séparé de nous par 170 années. Et en cette moitié du 19e siècle, les gens étaient tellement plus enclins à la religion et à la piété qu'aujourd'hui, que de lire que ces personnes-là, aussi enclins fut-elles à la piété et à la religion et à la moralité, malgré cela, les liens qui les retenaient à la terre étaient plus puissants que ceux qui les retenaient, qui les attiraient vers le ciel. Ouf. Combien aujourd'hui, je pose la question, frères et sœurs, combien aujourd'hui sont puissants les liens qui nous retiennent à la terre? Et combien est puissant le lien qui m'attire vers le ciel? Mais ce n'est pas sans espoir, parce que si nous pouvons bénéficier encore des intrusions, des immiscements de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, c'est qu'il y a de l'espoir. Cela veut dire que l'esprit n'a pas été complètement retiré de cette planète, malgré que l'iniquité soit tellement multipliée. Il y a de l'espoir. Mais pour eux, l'espoir de Dieu leur était devenu ténèbres. La lumière était devenue pour eux ténèbres, et ils avaient accepté les ténèbres comme la lumière. Ils préférèrent écouter la voix de la sagesse humaine et se détournèrent du message scrutateur de la vérité. Est-ce que je préfère écouter la voix de la sagesse humaine? Littéralement, c'est la voix de la sagesse mondaine. Et me détourner du message scrutateur de la vérité. C'est un message qui scrute le cœur. Le message scrute le cœur. Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu me scruter le cœur et à me révéler ce qui est lui révélé lorsqu'il scrute le cœur? Comme c'est écrit dans les psaumes, sonde-moi et connais mon cœur. Pas connais mon cœur pour que toi tu le connaisses. Il le connaît mon cœur. Mais connais mon cœur et fais-moi connaître ce que tu connais de mon cœur. Parce que je ne me connais pas, je ne réalise pas qui je suis, ce que je fais. Tout ce que je fais, c'est mauvais. Si je ne marche pas avec Jésus. Deuxième paragraphe, là c'est page 411, paragraphe 1, tragédie des siècles. En rejetant l'avertissement du premier ange, ils rejetèrent le moyen que le ciel avait préparé en vue de leur restauration. Ayant méprisé le messager miséricordieux, capable de corriger les maux qui les séparaient de Dieu, ils recherchèrent avec plus d'ardeur que jamais l'amitié du monde. Donc, ayant rejeté, ayant méprisé ce messager miséricordieux du premier ange, qui pouvait corriger les maux qui les séparaient de Dieu, ayant rejeté ce seul moyen que Dieu avait préparé en vue de leur restauration, qu'est-ce qu'ils ont fait après cela? Ils recherchèrent avec plus d'ardeur que jamais l'amitié du monde. Vous voyez un très 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 grand danger lorsque nous rejetons l'appel de Dieu. Ce que cela se passe, c'est que cela déclenche en nous un élan encore plus phénoménal pour aller rechercher les plaisirs de ce monde et l'amitié du monde. Et cela, frères et sœurs, je l'ai vu à de nombreuses reprises, c'est que lorsque des personnes se borne à rejeter le message qui est de toute évidence celui du ciel inspiré par Dieu, il se réfugie de plus en plus et il se dirige de plus en plus vers ce qu'il faisait avant, mais qui était bridé, qui était gardé en bride par leur conscience sensible. Lorsque nous lâchons la bride de la chair et que nous rejetons l'appel de notre conscience qui n'est autre que l'appel de l'Esprit de Dieu, gare à vous, gare à nous. Le Seigneur nous dit de prendre garde parce qu'il y aurait des esprits séducteurs à la fin des temps. Et ces esprits séducteurs disent, ce n'est pas grave, tu prends ton temps et tu profite parce que après, c'est la destruction. Et c'est gardé en silence, personne ne le dit vraiment. Mais les hommes savent que eux-mêmes, comme le diable, ils ont peu de temps pour profiter de cette terre. Parce que après, c'est le feu. Après, ce sont les plaies. Après, c'est le temps de détresse. Après, c'est le retour de Jésus-Christ sur les nuées. Et si je n'ai pas une relation vivante avec celui qui est ma seule espérance, lorsque celui qui est le sauveur du monde revient à cette terre, je ne supporterai pas de le voir. Et j'exclamerai, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 6, je crierai au rocher de me cacher de devant la face de l'agneau, sans tache et pur et immaculé. De Dieu. Ce sont des choses solennelles, frères et sœurs. Solennelles. Et donc maintenant, comme je vous l'ai annoncé, nous allons dans Apocalypse chapitre 18, où nous avons cette amplification du message du deuxième ange que je vous avais annoncé. Je vous ai dit juste auparavant que c'est cette expérience qu'ils ont faite en l'été 1844. Ils ont fait cette expérience. Les prédicateurs adventistes ont fait cette expérience que ceux à qui ils présentaient le message, ces membres des églises protestantes se sont détournés de ce message, ont refusé le message, ont rejeté le message. Et ça, ce qu'ils ont fait, l'expérience qu'ils ont faite, c'était l'application directe du message du deuxième ange. Et maintenant, dans Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 4, vous lisez bien avec moi, frères et sœurs, il y a un développement, une répétition du message du deuxième ange. Simplement ici, il y a un ajout, et ce message du deuxième ange est développé, et il y a des ajouts très très particuliers qu'il faut absolument que l'on relève. Parce que, comme je l'ai dit au début, si nous voulons la consolation que Dieu a en réserve pour nous, comment est-ce que nous allons pouvoir la recevoir à moins de comprendre et de réaliser le besoin profond que nous avons à ce dernier jour, avec l'iniquité multipliée autour de nous, de recevoir cette consolation? Il est écrit: après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit: elle est tombée Babylone la grande, et elle est devenue quoi? Ah, regardez un peu la joue maintenant. Et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis, verset 4, « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Est-ce que l'esprit a fait un impact sur votre intelligence? C'est la question que j'aimerais vous poser maintenant. J'aimerais savoir, et quelles sont les révélations que vous avez relevées ici? Repassons sur cette déclaration. Il y a ici un autre ange qui descend du ciel. Vous aviez le troisième ange, et ici il y a un autre ange. Et vu que le deuxième ange était aussi appelé un autre ange, la conclusion pertinente qui vient à nous, c'est qu'il s'agit ici du quatrième ange. Est-ce que vous avez déjà entendu parler dans l'Église adventiste du quatrième ange? Pourtant, c'est ici écrit. Ici, la déclaration sur Babylone est la suivante. C'est qu'elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Il y a ici des descriptions assez particulières, qui rappellent un peu le langage de Apocalypse chapitre 16, verset 13 et verset 14. Où là, il nous parle de grenouilles, d'esprit immonde. Et ici, Babylone la Grande, nous avions vu dans le deuxième ange, notre exploration du deuxième ange, dans Apocalypse chapitre 14, verset 8, que lorsqu'il s'agissait de Babylone, il ne s'agissait pas de l'église de Rome, ce n'est pas l'église de Rome qui était présentée ici, mais une réitération dans les églises protestantes d'Amérique de la chute de l'église de Rome. Et donc, la conclusion logique, c'est qu'il s'agit encore ici, une fois, d'une description qui s'applique non pas uniquement à l'église de Rome, mais aux églises protestantes apostates. Parce qu'elles ne peuvent être qu'apostates si c'est la définition que Dieu donne ici d'elles. Et ces paroles ne peuvent que réveiller en moi des souvenirs assez amers, des choses que j'ai entendues, que j'ai vues de mes propres yeux et que j'ai ensuite entendues d'autres personnes que j'avais connues. J'avais l'habitude d'aller dans cette église à Nîmes, en France, et j'y ai passé quelques années, pas de nombreuses années, mais suffisamment pour discerner le développement des choses de la spiritualité au sein de cette église, qui n'était autre qu'une manifestation locale d'une réalité globale dont tous peuvent témoigner et que tous peuvent voir de leurs yeux. Et une personne que je connaissais bien, que j'avais beaucoup à cœur, après que j'ai finalement décidé de me séparer et de chercher d'autres horizons, pour ainsi dire, j'ai continué à entretenir des échanges avec cette personne et une fois où cette personne m'appelait et il me disait des choses vraiment vraiment tristes mais qui représentaient d'une manière inéchappable, une manière à laquelle on ne peut pas échapper, la réalité qui décrivait vraiment cette réalité des choses aujourd'hui dans l'église adventiste du septième jour, telle que l'organisation est aujourd'hui nommée, l'organisation moderne. Je précise le mot moderne, l'organisation d'aujourd'hui. Et il me disait, oh Victor, si tu savais, la dernière fois, ils nous ont fait prier debout, les yeux ouverts. Et vous savez ce qui m'est venu à la tête directement? C'est ce passage. Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. C'est maintenant devenu un repère pour des pratiques spiritistes, pour des pratiques occultes, pour des pratiques bizarres, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais qui s'y frayent un chemin à cause de la tiédeur des membres et à cause des enseignements qui sont donnés par les pasteurs. Rappelez-vous, au temps de 1844, un des problèmes, c'est que les pasteurs qui auraient dû connaître la condition des choses, qui aurait dû reconnaître dans le témoignage des prophètes les signes du retour de Jésus, il n'avait pas donné au troupeau, au peuple de Dieu, la nourriture convenable. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Malheureusement, c'est la réalité, ça ne peut pas être évité. Il faut absolument aborder ce sujet parce que qui le fera? Et j'aimerais lire l'esprit de prophétie qui commente directement sur ce passage de Apocalypse chapitre 18 versets 1 à 4. Ce passage nous signale un temps où la proclamation de la chute de Babylone décrite par le second ange du 14e chapitre de l'Apocalypse verset 8 sera réitérée et accompagnée du tableau de la corruption qui s'est introduite dans les diverses organisations qui constituent Babylone après la première proclamation du message dans le courant de l'été 1844. Donc, qu'est-ce que ce passage nous signale? Un temps où la proclamation de la chute de Babylone, décrite dans Apocalypse 14:8, sera réitéré et accompagné du tableau de la corruption qui s'est introduite dans les diverses organisations qui constituent Babylone après la première proclamation du message dans le courant de l'été 1844. Nous avons ici une description effrayante de l'état du monde religieux. À chaque réjection de la vérité, les esprits deviendront plus enténébrés et les cœurs plus obstinés pour finalement aboutir à une impiété effrontée. En dépit de tous les avertissements de Dieu, on continuera de fouler aux pieds l'un des commandements du Décalogue et on finira par persécuter ceux qui le tiennent pour sacré. On rejettera Christ par le mépris qu'on l'on témoignera envers sa parole et envers son peuple. Comment est-ce que on rejette Christ? Elle nous dit, l'esprit de prophétie nous dit ici que on le fait par le mépris que l'on témoigne envers sa parole et envers son peuple. Je vous pose la question ici, frères et sœurs. Est-ce que vous avez une facilité aujourd'hui dans les cercles adventistes, dans les mouvements indépendants, dans la grande église adventiste d'aujourd'hui, est-ce que vous avez une facilité à proclamer la pure parole de Dieu? Est-ce que vous avez une facilité à lire l'esprit de prophétie? Est-ce que vous avez une facilité ou est-ce qu'il y a un mépris qui est témoigné envers la parole de Dieu et envers son peuple? Envers son peuple et quel peuple? Nous allons le voir. Nous allons le voir parce que c'est très intéressant. Quel est le peuple? Comment est-ce que Dieu définit son peuple en ces derniers jours? Allez-y maintenant dans Ésaïe, chapitre 1 et verset 9. Ce sont là plein de petits éléments fondamentaux, mais qu'on est en danger de passer complètement à côté, parce que on se dit, oh, mais son peuple, c'est son organisation, non? C'est important. Est-ce que c'est possible que je me sois trompé dans ma façon de considérer le concept de l'Église de Dieu? Et est-ce que, à plus forte raison, je me suis trompé dans ma façon de considérer le concept de l'Église du reste? Vous savez, il y a quelques années encore, j'avais toutes sortes d'idées sur ce que pouvait constituer le reste. L'Église du reste, le peuple du reste. Mais après due analyse, après examen attentif de la parole de Dieu, j'ai réalisé qu'en fait, mes idées n'étaient pas fondées. Et donc, j'aimerais qu'on se tourne maintenant dans Ésaïe chapitre 1, verset 9. Où le prophète dit « Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé quelques petits restes, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. » Très très intéressant. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici dans cela? Autrement dit, qu'est-ce que c'est Sodome? Comment est-ce que c'est? Comment est Gomorre aujourd'hui? Est-ce que vous savez? Sodome et Gomorre n'ont-ils pas été brûlés et mis à cendres par le feu et le soufre? Que reste-t-il aujourd'hui de Sodome et Gomorre? Est-ce que Sodome et Gomorre brûlent encore? Est-ce que vous savez où est-ce que c'est sur la carte? Ça a été complètement éradiqué. Ça a été complètement réduit à cendres et à néant. Et ici, sous l'inspiration, le prophète dit, en parlant d'un peuple futur, par l'esprit de prophétie, il dit « Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé quelques petits restes, s'il n'y avait pas un petit reste ici-là, parmi nous, nous aurions été détruits. » Et qu'est-ce que cela vous rappelle? Est-ce que cela ne vous rappelle pas l'expérience de Lot avec sa femme et ses enfants? Bon, en réalité, il n'y avait vraiment que Lot, parce que sa femme, elle s'est transformée en pilier de sel, et ses filles, elles ont fait des choses abominables. Donc il n'y avait vraiment que Lot, il y avait cet homme juste dans Sodome. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que cet homme juste était dans Sodome, il a épargné la ville. Et donc le message, c'est que Dieu est en train de dire, ici, il est en train de parler ici d'une condition de choses où il y a une cité qui était fidèle mais qui est maintenant une prostituée. Une cité était fidèle, elle est maintenant une prostituée. C'était une vierge, elle n'est plus vierge désormais. Elle est tombée. Elle est tombée et là où il y en avait 1000, il n'y en a plus que 10 dans la maison d'Israël. Et Dieu dit, si le Seigneur ne nous avait pas laissé quelques petits restes, nous serions détruits. Nous serions comme Sodome et comme Gomorre. Et élargissons ensemble cette déclaration très 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 importante que Dieu nous fait ici au sujet du peuple de Dieu, de l'Église du reste, dans ce dessein prophétique qu'il nous fait de son peuple à la fin des temps. Allons dans Sophonie, chapitre 3 et versets 1 à 5 pour commencer. Directement en lien avec cela, vous allez voir. Nous avons parlé de la cité juste, la cité fidèle qui est devenue une prostituée. Nous avons lu la maison d'Israël, la vierge d'Israël qui est tombée. Et maintenant, on a vu que l'Éternel a laissé quelques petits restes. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville qui opprime. C'est la continuité de Ésaïe chapitre 1, 21 que nous avions lu auparavant. Elle était fidèle et ensuite elle est devenue une prostituée. Autrement dit, elle est tombée avec Babylone. Comme nous avons vu, comme ces églises protestantes de 1844. Mais rappelez-vous, ce n'est pas simplement en 1844, parce que nous avons lu dans le commentaire sur Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 4, que l'esprit de prophétie nous dit que nous avons ici une description d'un moment où ce message du deuxième ange serait réitéré avec en plus des informations ajoutées sur la corruption qui s'est introduite dans les diverses organisations qui constituent Babylone. Très très intéressant, très important de relever chaque aspect qui nous est présenté ici par l'inspiration. Malheur, je relis Sophonie, malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville qui opprime. Ok? Elle n'a point écouté la voix, elle n'a point reçu l'instruction, elle ne s'est point confiée en l'Éternel. Elle ne s'est point approchée de son Dieu. Rappelez-vous ce qu'on a lu, la déclaration sur cette condition de choses qui caractérisait les églises protestantes au temps de l'appel du message du premier ange. Rappelez-vous, tout ce qu'on a lu là, c'est exactement ce qui est écrit ici. Et si vous faites le lien, vous allez comprendre que cette condition de choses qui était la réalité en 1844 et que les laïcs adventistes se retrouvaient confrontés à cette condition de choses, eh bien, ça serait aussi la condition de choses, mais amplifiée à la fin où le message de Apocalypse 18 il serait proclamé. Et donc ce que nous disons ici dans Sophonie chapitre 3, ça serait aussi la réalité à la fin. Verset 3. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges des loups du soir qui ne réservent rien pour le matin. Ces prophètes sont des téméraires et des hommes perfides. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes, ils violent la loi. Est-ce que vous avez déjà rencontré des pasteurs qui ne savent pas garder le sabbat? Des pasteurs qui encouragent les membres à profaner les choses saintes? Qu'est-ce qu'ils sont? Ces prophètes sont des téméraires. J'avais vu un homme prêcher à la chair et ce même homme s'est retrouvé à être acteur dans une pièce de spectacle au même endroit où il avait prêché à la chair. C'est la réalité, frères et sœurs. Tout cela s'est en produit dans le sanctuaire de l'Église adventiste. Est-ce que ces choses s'appliquent ou pas? Est-ce que je rêve ou est-ce que mes yeux ont vu la réalité? Frères et sœurs, examinons, je vous en supplie. Examinons pour pouvoir appliquer les choses telles que Dieu nous les communique et les recevoir telles que Dieu les a destinées pour nous et nos cœurs. Parce que nos cœurs sont directement sur le champ de bataille. Et à moins de pouvoir discerner la réalité de l'iniquité multipliée et de cette chute de Babylone qui s'est propagée jusque même dans une organisation qui fut autrefois la représentante première du message des troisièmes anges, à moins de discerner cette condition des choses, nous sommes dans un terrible danger de participer à ces péchés et de recevoir ces plaies, comme c'est écrit. Je reprends. Ces prophètes sont des téméraires et des hommes perfides. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes. Ils violent la loi. Vous savez, j'avais une personne que je respecte, j'ai toujours beaucoup respecté et avec qui j'avais suivi des études bibliques pour une préparation au baptême. Et pendant que je suivais ces études bibliques avec lui, une fois après l'autre, je me retrouvais confronté à la réalité que tout ce que j'apprenais dans la Bible, il avait une réponse contraire aux choses que j'avais lues écrites noir sur blanc. Il n'avait pas une réponse sur toutes les choses. Mais il y avait certaines choses qu'il n'était pas prêt à faire et pour lesquelles il trouvait une objection. Il m'a lui-même parlé d'une expérience qu'il avait faite où il partageait peut-être la parole de Dieu, il essayait de représenter Dieu à une personne et cette personne lui a offert un verre de vin et ne voulant pas offusquer cette personne et voulant être un bon représentant de Dieu, il a accepté le verre de vin. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes. Ils violent la loi. La loi de Dieu dans le Lévitique et partout dans la parole de Dieu dit que celui qui sert dans les choses saintes ne doit pas boire de boisson forte. Comme tous les autres croyants d'ailleurs, mais tout particulièrement celui qui sert dans les choses saintes, qui fait le service de Dieu, qui officie en la présence de Dieu dans son sanctuaire, il viole la loi. Frères et sœurs, je vous en supplie, écoutez la parole de Dieu. Moi, il y a quelques années, frères et sœurs, j'ai décidé, ce n'est pas possible. Seigneur, ce n'est pas possible, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas t'adorer ici, ce n'est pas possible, c'est complètement impossible. Mais d'un autre côté, je me disais, mais Seigneur, si je ne vais pas là, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Ici, Apocalypse chapitre 18, verset 4. Je veux revenir à Sophonie, mais je ne sais faire autre chose, frères et sœurs, que de déverser mon cœur pour, dans l'espoir que cela puisse être reçu par le cœur réceptif. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Vous allez me dire, mais où? Eh? Où? Quelle église? Tu vas dans le mouvement de réforme? Non? Non, n'y allez pas, n'y allez pas. La lumière est éteinte. Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Il y a écrit, puis j'entendis une autre voix du ciel. Et remarquez bien ici, il s'agit pas, il ne dit pas, je vis descendre du ciel un autre ange, encore une fois, un autre ange. Il dit, j'entendis une autre voix du ciel. C'est une voix. Vous avez maintenant une voix. Ce n'est plus, à proprement parler, une organisation mondiale super bien disciplinée dans le sens où elle a ses affiches publicitaires réparties dans tous les continents. Ce n'est plus cela. Rappelez-vous, au temps de Miller et de ses collègues, c'était des laïcs. C'était des laïcs. Ils ont été rejetés, mais ils avaient le message de Dieu. Et ici, vous avez pas un ange, mais une voix. Et cette voix est telle que c'est la voix même de Dieu. C'est la voix même de l'Esprit qui est communiquée à travers ceux qui en deviennent le moyen de communication. Et cette voix, j'entendis une autre voix du ciel qui disait, cette voix disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Et c'est ce que j'ai réalisé. Je me retrouvais confronté avec cette situation de choses qui était absolument effrayante, absolument insupportable. Vous êtes au milieu d'un peuple qui professe être le peuple de Dieu, qui porte l'étendard du nom qui était celui de l'Église qui a propulsé le message des trois anges à travers le monde et qui était pour une certaine période de temps la seule église représentant l'évangile éternel, la loi de Dieu et le message des trois anges. Vous vous retrouvez maintenant aujourd'hui au sein d'une église qui garde ce nom, mais qui ne fait plus ce que ce peuple faisait. Et qui dit à ses membres, mais c'est l'église adventiste du septième jour. C'est la même. Si tu quittes l'église, si tu quittes cette église, si tu quittes cette organisation, tu quittes le peuple de Dieu. Et j'aimerais briser ces préjugés. J'aimerais briser ces idées. J'aimerais briser ces concepts qui n'ont aucun fondement dans la parole de Dieu. Car dans le livre Conquérant Pacifique, je suis désolé, je n'aime pas la page ici, mais il nous est déclaré, c'est la page 11 dans la version anglaise, il nous est déclaré que depuis le début, ce sont les âmes fidèles qui ont constitué l'Église. Les âmes fidèles. Ce n'est pas la cathédrale, comme l'Église, l'Esprit de prophétie le dit, ce n'est pas la cathédrale, ce n'est pas les grands, la grande organisation, mais ce sont ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Ce sont eux qui constituent l'Église de Dieu. Ce sont eux qui constituent l'Église du reste. Et donc, en revenant vers Sophonie, chapitre 3, verset 5, regardez maintenant avec moi. Il a parlé ici de cette ville rebelle et souillée dans laquelle ses chefs sont comme des lions rugissants et ses prophètes sont des hommes téméraires et perfides qui profanent les choses saintes et qui violent la loi. Et maintenant il dit, l'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il met en lumière ses jugements. Il n'y manque pas. Mais l'injuste ne connaît pas la honte. Ici, vous avez ici une déclaration qui est tellement révélatrice de l'amour qui est dans le cœur de Dieu, que ça me met bouche bée. Parce que si vous y réfléchissez bien, frères et sœurs, vous avez ici un Dieu qui, parce que il reste encore des justes au milieu de cette cité souillée, va rester au milieu d'elle. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, où il y a deux ou trois personnes assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elle. Au milieu de ces deux ou trois personnes, il est. Et il se présente et il fait ressentir sa présence. Qu'est-ce que c'est écrit ? L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Il ne change pas. S'ils sont téméraires, les prophètes, s'ils violent les choses saintes, s'ils profanent les choses saintes, s'ils violent la loi, l'Éternel, il ne commet point d'iniquité. Qu'est-ce qu'il fait ? Chaque matin, il met en lumière ses jugements. Il n'y manque pas, mais l'injuste ne connaît pas la honte. C'est une déclaration, mais impressionnante. Réfléchissez, frères et sœurs. Le problème, c'est que, je sais, le danger, je n'ai jamais compris ce passage avant. Parce que pour comprendre ce passage, il faut répondre à l'appel, comprendre et répondre et embrasser et épouser l'appel d'Apocalypse chapitre 18, verset 4. Quand vous avez compris, ne serait-ce que compris, si vous comprenez, vous allez pouvoir comprendre. Si vous embrassez et épousez et adoptez, là, cela deviendra très clair. Et je vais vous aider maintenant parce que je l'ai fait, j'ai épousé ce message et je comprends, je discerne maintenant parce que l'Esprit, le Seigneur me fait discerner maintenant à la lumière de tous les passages bibliques. Je ne prétends aucune illumination de moi-même, je vous parle simplement de l'illumination de la parole de Dieu, de la relation d'un passage lié à un autre. Parce qu'il dit ici, chaque matin, il met en lumière ses jugements. C'est-à-dire que, au milieu d'elle, il y a des personnes qui croient qu'ils sont dans le bon endroit. Et il ne les abandonne pas. Il les aime. Il ne va pas les faire brûler parce que Sodome et Gomorre se sont adonnés à l'iniquité. Non. Non. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Ça ne veut pas dire il est juste là, dans le sens où on le dit dans notre français moderne. Non, ça veut dire il est juste, il reste juste au milieu d'elle. Il met en lumière ses jugements, il continue à nous parler. Si nous sommes encore là-dedans, si nous sommes encore là-dedans, et dans le double sens, si je suis encore dans l'oppression de ce monde où l'iniquité s'est tant multipliée, l'Éternel est juste au milieu de cette oppression. Mais le premier sens, et le presque unique sens, c'est que il est juste au milieu de cette cité qui est souillée. Au milieu de cette cité qui opprime, elle opprime. Connaissez-vous cette expérience? Dans Ésaïe chapitre 66, verset 5, cette expérience est définie. Et dans ce passage, Dieu parle de ceux qui tremblent à sa parole. Et ceux qui tremblent à sa parole, ils font une expérience. Ils se font rejeter. Et ceux qui le rejettent, ils disent que l'Éternel montre sa gloire, que l'Éternel soit glorifié. On les a chassés. Ils n'appartenaient pas à l'Église. Ils sont extrêmes, ils sont fanatiques. On ne veut pas d'eux. Et l'Éternel, le Seigneur, il dit dans ce passage, mais l'Éternel, il apparaîtra à la joie de ceux qui se sont fait rejeter. Mais ceux qui les ont rejetés, ils seront honteux. Ils seront honteux de ce qu'ils ont fait. Ils seront honteux de ce qu'ils ont chassé le peuple de Dieu. C'est comme s'il est écrit ici, mais l'injuste ne connaît pas la honte. Pendant que l'Éternel, il est juste au milieu d'elle, l'injuste, il ne connaît pas, l'injuste, il ne discerne pas sa honte, il ne discerne pas sa condition. L'injuste, il ne perçoit pas que le Seigneur met en lumière ses jugements. Et verset 11. En ce jour-là, tu ne seras plus confuse à cause de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui se réjouissent de ton orgueil, et tu ne continueras plus à t'enorgueillir sur la montagne de ma sainteté. Et je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, et il mettra sa confiance dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra point d'iniquité, il ne proférera point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront et ils se reposeront, et il n'y aura personne qui les épouvante. Qu'est-ce qu'il dit ici ? J'ôterai du milieu de toi ceux qui se réjouissent de ton orgueil, et tu ne continueras plus à t'enorgueillir sur la montagne de ma sainteté. Du temps des Juifs, la montagne de sa sainteté, ce n'était autre que l'endroit où ils avaient bâti le temple. C'était l'endroit où Jérusalem était situé, et c'était leur gloire. Et donc ici, dans ce langage qui fait écho à cette réalité qui existait au temps des Juifs, le Seigneur, il projette notre attention vers la fin où il parle et il dit en ce jour-là. Quel est ce jour dont il parle ? Le jour où il a résolu de rassembler les nations et de réunir les royaumes pour répandre sur eux son indignation, au verset 8. C'est ce jour-là, le jour tout près de la fin, tout près d'Armageddon, la sixième plaie. En ce jour-là, la toute dernière fin, il dit « Je laisserai au milieu de toi, de cette cité souillée et infidèle, et prostituée, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible. » Ou comme c'est écrit dans la Bible King James, un peuple affligé et pauvre. Et il mettra sa confiance dans le nom de l'Éternel. Très très important ici. En d'autres termes, pour le mettre en un langage plus adapté et moderne, tu ne t'enorgueilliras plus d'appartenir à sa montagne sainte, comme le faisaient les Juifs qui se disaient enfants d'Abraham alors qu'ils n'avaient pas du tout la foi d'Abraham. Tu ne t'enorgueilliras plus que tu appartiens à ma montagne. Tu ne t'enorgueilliras plus que tu appartiens à une grande organisation qui semble offrir tant de merveilleuses possibilités pour l'évangélisation, mais tu mettras ta confiance dans le nom de l'Éternel. C'est facile de le lire comme cela, de manière superficielle, mais quand vous discernez ce que le Seigneur veut dire, il nous appelle à mettre notre confiance non pas dans les effectifs, non pas dans un nombre, un grand nombre, dans une église avec une petite centaine de membres, une petite cinquantaine, une petite soixantaine, ce qui gonfle notre orgueil à l'intérieur de nous. Nous nous disons, oh, regarde un peu moi, regarde-moi, j'appartiens à ce peuple de Dieu qui est nombreux, qui est bien installé, qui a des facilités financières agréables et confortables dans laquelle nous pouvons prospérer et faire des distributions élargies de tragédie des siècles et de vers Jésus et faire des campagnes d'évangélisation importantes. Non. Il dit, tu es le peuple du reste que j'ai laissé au milieu de cette ville souillée. Mais maintenant, je te dis quelque chose. Parce que il met en lumière ses jugements, il n'y manque pas. Il n'y manque pas. Et quand il met en lumière ses jugements, ça veut dire que comme il l'a utilisé en 1844, il utilise des personnes qui ne sont pas enflées d'orgueil, enflées de leur propre suffisance, qui ne sont pas des pasteurs qui ont traversé tout plein d'années d'enseignement, de théologie, qui ont des diplômes, des masters de ceci, de cela. Non, ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup d'éducation, comme l'esprit de prophétie le décrit. Des personnes qui sont choisies non pas purement par leur aptitude par rapport à leur éducation, mais qui sont ointes de l'Esprit de Dieu. Et maintenant il dit, voilà, je mets en lumière mes jugements, j'ai laissé au milieu de toi un peuple pauvre et affligé, et maintenant tu vas mettre ta confiance dans le nom de l'Éternel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Arrête de mettre ta confiance dans ça. Sors d'elle où il y a toutes sortes d'esprits immondes et impurs pour que tu ne participes point à ces péchés et que tu ne reçoives point ces plaies. Il dit, tu répondras à l'appel d'Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Sortez du milieu de Babylone, mon peuple, pour rentrer dans les rangs de son armée, de sa colombe, du reste d'Israël qui ne commet point d'iniquité. C'est notre lecture biblique. On va conclure avec cela. Le Cantique des Cantiques, chapitre 6, versets 8 à 10. Où il est écrit, il y a 60 reines. Rappelez-vous, une femme, c'est un symbole d'une église. Il y a 60 reines. Une reine, qu'est-ce que c'est? C'est la femme d'un roi. 60 églises, ou en d'autres termes, il y a les églises qui sont des églises nationales, qui sont directement associées et mariées à l'État. Un exemple typique, c'est quoi? L'église anglicane. L'église de Rome. L'église de Rome, c'est le parfait exemple. Elle est la mère des prostituées. C'est une reine. Elle est la mère. Il y a 60 reines et 80 concubines. Qu'est-ce que c'est des concubines? Ce sont des femmes qui se réclament d'un homme mais qui ne sont pas mariées à cet homme. Donc qu'est-ce que c'est? Plein d'églises et de dénominations, de confessions religieuses, des concubines. Pourquoi est-ce que ce sont des concubines? Parce qu'elles ne sont pas la femme de Jésus. Elles ne sont pas son église. Et donc, il les appelle des concubines. C'est le nom que la Bible leur attribue. Elles sont des concubines parce qu'elles se réclament du nom de Christ. Mais elles ne sont pas, et il n'est pas leur mari. Quoi d'autre? Et des vierges sans nombre. Et là, ce sont tous les mouvements indépendants, tous les petits groupes indépendants qui ne se sont pas souillés des souillures des autres églises apostates. Ce sont des vierges sans nombre, mais qui ne sont pas mariées à Jésus. Elles sont des vierges, mais elles ne sont pas mariées à lui. Elles se gardent de certains abus, elles essaient de garder la pureté des groupes indépendants, des vierges sans nombre. Mais il dit, ma colombe, ma parfaite, est unique. Elle est l'unique de sa mère, l'unique de celle qui l'a enfantée. Les jeunes filles l'ont vue et l'ont dite bienheureuse. Les reines et les concubines l'ont louée. Qui est celle qui apparaît comme l'aube du jour, belle comme la lune, pur comme le soleil, redoutable comme une armée qui marche en ligne déployée. C'est notre appel, tel que Jésus nous l'a présenté dans Jean chapitre 10, verset 16, pour conclure. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est l'aboutissement final du rassemblement à l'église du reste. Elles entendront. Il y a beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas encore rassemblées et ramenées dans son troupeau, dans son église du reste. Mais il dit, il faut aussi que je les amène. Et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et la voix, c'est celle que nous avons lue, « Sortez du milieu d'elles, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Il dit, « Ne soyez pas comme les églises protestante de 1844, à faire la même erreur, les mêmes erreurs que ces églises qui sont tombées. Frères et sœurs, puisse le Seigneur nous accompagner dans la considération vraiment sincère et sérieuse de ces réalités inévitables des derniers jours. Puisse le Seigneur vous accompagner, c'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.